Ensemble, ici, Radio Livre, la radio des initiatives.
Donc bonjour à toutes et à toutes, il est bientôt 11h, jeudi 16 juillet au Café des Alpes à Nyons, dit chez Ali. Et on est aujourd'hui avec Guy Tanjali et Lucas de l'association Mare Nostrum. Donc un Drômois et une Bretonne, des origines diverses et variées, une même soif de voyage, de découverte et de partage, un engagement similaire en faveur du dialogue entre les peuples et pour la diffusion des savoirs et des cultures. Mélangez tout cela et vous obtenez Mare Nostrum, donc votre projet à tous les deux. Bonjour Guy Tanjali.
Bonjour Théo.
Bonjour Lucas.
Et bonjour.
Donc voilà, seulement quelques semaines que vous êtes de retour de votre périple, j'imagine avec plein de beaux souvenirs en tête.
Oui, effectivement. Alors pour commencer, on voudrait dire un grand merci à Ali qui nous accueille dans son bar aujourd'hui.
Et à Ensemble ici pour cette collaboration.
Et merci à Mare Nostrum pour accepter de faire cette émission. Peut-être pour commencer, avant d'écouter des petits extraits de musique traditionnelle que vous nous avez préparés et de parler un peu plus en profondeur de votre voyage, avec quelle idée est-ce que vous avez choisi de créer Mare Nostrum, cette association, et de partir en voyage derrière?
Alors, l'association, on l'a créée en mars dernier, mars 2014, oui. Donc pour soutenir en fait le projet qu'on avait créé, qui est à la base un projet de voyage, donc un projet personnel, une envie de voyager, d'aller découvrir un peu ce qui se passait ailleurs, de changer notre regard aussi sur notre vie en France en découvrant ce qui se passe ailleurs. Ouais.
Alors l'association Mare Nostrum, au départ, c'était donc un projet de voyage autour de la Méditerranée, donc autour d'environ 10 pays méditerranéens. Alors on avait décidé de créer ce voyage parce que on avait envie de découvrir la Méditerranée qui fait partie de la culture française et qui a influencé énormément tous les pays qui nous entourent et donc nous-mêmes. Et en fait, on s'est demandé, on a envie de voyager, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut apporter à notre territoire, qu'est-ce qu'on peut apporter où on va. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à étayer notre projet. En créant des partenariats, notamment avec des établissements scolaires. Ça a été la première chose de faite. Donc on a créé des partenariats entre 14 classes françaises et 14 classes à l'étranger, au Maroc, en Croatie, en Albanie, en Turquie. Et donc ces écoliers ont pu correspondre toute l'année. Donc ça a été la première chose qu'on a faite. Ensuite, on a aussi voulu savoir ce qu'on pouvait apporter à l'étranger. Et donc, on a décidé, à chaque fois qu'on s'arrêtait dans un pays, d'aller intervenir auprès des scolaires et de partager avec eux ce qu'on découvrait pendant notre voyage.
Et un voyage qui a donc duré 7 mois. Vous avez traversé plusieurs pays tout au long de ce périple, donc avec des liens avec les écoles, comme tu viens de le dire, Guy Tanjali. Et puis donc dans l'idée de rencontrer à la fois des cultures, ces cultures méditerranéennes, rencontrer les hommes qui habitent ces pays-là, et puis les musiques, certaines des musiques traditionnelles, populaires et savantes de ces pays que vous avez traversés.
Oui, voilà, on voulait donner un fil rouge un peu à ce projet-là, et puisque c'est mon dada, on a choisi la musique comme porte d'entrée, comme petite porte d'entrée dans les cultures, puisque c'est toujours intéressant de faire un parallèle entre la culture du pays, la musique, l'histoire du pays, l'histoire de cette musique, les mœurs qui s'y rattachent, les coutumes, la religion, enfin, c'est large après. Et donc on avait pour objectif d'aller découvrir au moins une musique qui avait une origine particulière dans les pays qu'on avait visités.
Donc une musique au moins pour chaque pays, des extraits que vous avez recueillis directement là-bas. Et donc vous avez choisi, en collaboration avec Radio Livre et Ensemble ici, de proposer à nos auditeurs de revenir sur les différentes étapes de ce voyage. Et donc de raconter un petit peu votre aventure à travers la musique et puis à travers vos souvenirs. Et aujourd'hui, donc, on voulait consacrer cette émission au Maroc. Donc c'est le premier pays, après avoir traversé l'Espagne, sur lequel vous mettez les pieds.
Alors, notre trajet, on l'a débuté en Espagne. Suivent après le Maroc, l'Italie, la Croatie, l'Albanie, la Grèce, puis la Turquie. Donc on aura le temps d'en parler plus tard.
Il faut préciser qu'on voyageait en van.
Et du coup, après avoir traversé l'Espagne, on va dire qu'on a eu un peu de mal à rentrer en contact des Espagnols, de la culture espagnole. Ça a été assez difficile. On a vraiment commencé notre projet, on a vraiment commencé à découvrir les cultures, à rencontrer les personnes à partir du Maroc. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du Maroc. Alors juste pour parler un peu de l'Espagne quand même, on vous met tout de suite un morceau de musique. On vous expliquera après de quoi il s'agit. Vamos otra vez.
Ensemble, ici, Radio Livre.
Radio Livre, la radio des initiatives.
Donc cet enregistrement a été effectué à Malaga, sur un parking un soir. On entendait au loin, depuis l'appartement de notre hôtesse de Malaga, une fanfare. Donc on prend notre zoom et on court vers ce bruit-là. Et en fait, c'était une répétition d'une fanfare de la procession de la Semaine Sainte à Malaga. Donc, les processions de la Semaine Sainte, c'est un peu un événement incontournable dans la culture andalouse. Et bon, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus, mais je trouve que ça illustre bien le rendez-vous raté qu'on a eu en Espagne avec le flamenco, qui était la musique qu'on avait prévu d'aller rencontrer. Et on a un peu peiné pour la rencontrer, je pense, pour plusieurs raisons, dont notre inexpérience n'est pas des moindres. Mais aussi parce que c'est une musique très codifiée et qui est issue d'une communauté assez fermée, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Non, c'est vrai que ça illustre bien, en fait, tout notre voyage par la suite. C'est qu'à chaque fois qu'on entend une musique, y a une histoire derrière. Voilà, là, elle va être, cette musique, elle est reliée à la religion, à des coutumes. Et aussi, c'est important de parler peut-être de la religion parce que, en fait, on s'est rendu compte aussi pendant tout notre voyage que c'est quelque chose qui est encore très, très, très important dans tous les pays qu'on a traversés, beaucoup plus qu'en France, et qui marque énormément les cultures de ces pays-là. Vous allez voir par la suite, en fait, il y a quand même beaucoup des musiques qu'on a rencontrées qui ont souvent un lien avec ça.
Quel lien, du coup, entre cette fanfare et l'aspect religieux ?
Et du coup, c'est les fanfares de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte est une fête.
Elles accompagnent les chars qui défilent dans la rue des confréries religieuses andalouses.
Voilà.
Et on passe au Maroc, maintenant.
Alors, du coup, on vous laisse écouter le second morceau.
Qui s'appelle ?
Qu'il a un nom ? Qui s'appelle Printemps.
Printemps.
Oui. Alors, on ne connaît pas le nom arabe, mais en tout cas, en français, c'est Printemps.
Cette chanson, c'est une ancienne chanson rodanaise qui était partie de la musique de Melhoun. On a essayé de faire une fusion avec mon groupe. Cette chanson ça fait partie d'un projet Valawin. Ça s'appelle Printemps en français, en arabe. Je vais juste chanter un petit extrait. On a gardé la méthode de chanter Melhem. Ah!
محبوبي فصل ربيع من جانا الفرجات ونزيف خضار وبساط الطبيعة شاركوا الأحباب والأخوان لا 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 مالي مالي لا لا أمل غزالي يا مولادي يا لا لا مولانا يديك يا سيدي شوف الربيع زي والأرض مفرشة زرابي بزارو ترقص فيها الأغصان بنسي من حاله ومزاك يا بنسيدي خرجوا بعمو فكساوي من فحرير نسوج عبارو تروزة بالحكمة ومغزل لستايسان سيدي سيدي والجومة تدلحر ولا قرجة داوي بخمارو بالفافة يا بنجوم نجوم وسوان يا بن سيدي لله جيتنا الظفر جا في قصتنا زرق سنوارو بدون الصرخ يا بن سيدي نجوم وسوان عاد حبوبي في صلاة ربي من جانا من فرجات وزي خضارو بساط الطبيعة شاركوا الأحباب والأخوان لا 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 مالي مالي لا لا أمر غزالي أمولاتي يا لا لا مولانا يدي
سي ديديكاس بور فو ميرسي
راديو لي.
Alors, vous venez d'écouter Younes, donc Younes, notre grand ami Younes, qu'on a rencontré dans la ville de Taroudan. Alors, on avait envie de commencer avec cette musique pour présenter le Maroc, parce que c'est vraiment la personne qui nous a permis de découvrir le Maroc, qui nous a introduit à diverses associations musicales, mais aussi sur le droit des femmes au Maroc, sur l'environnement, sur la gestion de l'environnement au Maroc. Voilà, il nous a vraiment permis de découvrir le tissu associatif local. Et donc, on avait envie de commencer avec cette chanson. Alors, Younes, c'est le président d'une association, l'association Soprano, qui œuvre pour permettre aux jeunes de découvrir l'art de manière générale.
De pouvoir s'exprimer par l'art, surtout de leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer par l'art. Soit en leur donnant des cours pour se perfectionner ou en les aidant dans la formation de groupe, en leur trouvant des scènes pour jouer. Ce genre de choses. Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, la culture est au point mort, sauf les formes artistiques traditionnelles, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a aucune création artistique, puisqu'il n'y a aucun moyen qui est donné, il n'y a aucune infrastructure. Et donc, c'est vrai que c'est un gros combat pour ce jeune homme de 30 ans qui vit très simplement.
Alors, comment vous avez fait ces rencontres comme Lounès? Est-ce que c'est au hasard d'une rue ou est-ce que vous alliez vraiment à la recherche d'associations qui étaient dans le domaine?
Pour tous nos contacts à l'étranger, on s'est appuyé sur le réseau des ambassades et des instituts français à l'étranger. Et donc là, c'est un contact qui nous a été donné par le chargé de coopération culturelle à l'Institut français d'Agadir, donc avec qui on a pas mal collaboré. C'est aussi lui qui nous a mis en contact avec notre école partenaire au Maroc, qui était à Agadir aussi. Et donc on est allé le voir à Agadir, cet homme qui nous a dit « J'ai ce contact-là qui pourrait être très intéressant pour vous ». On l'a rencontré l'espace d'une heure sur Agadir, où il venait chaque semaine prendre des cours d'anglais, et on a accroché tout de suite, il nous a invités à venir chez lui dès la semaine suivante. Voilà comment ça s'est fait.
Un voyage qui commence donc par une première belle rencontre.
Oui, c'est donc, ça. Pour peut-être parler un tout petit peu de l'expérience de vie d'Younes, il a créé cette association parce que quand il était jeune, il cherchait un peu des moyens d'expression et il a commencé à faire du breakdance dans la rue. Et finalement, tous les soirs, il se retrouvait au poste de police parce qu'on n'avait pas le droit de s'exprimer sur la place publique. Et donc, c'est aussi voilà, c'est son combat, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer par l'art. J'avais envie de rajouter ça sur Younes.
Deuxième extrait.
Alors, un deuxième extrait, justement, d'une des associations qu'on a rencontrées grâce à Younes.
Sultani Malayo
C'est un bon, excellent musicien, presque.
Ensemble, ici,
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 ici. Radio Livre,
Radio Livre,
Radio Livre,
la radio des initiatives.
D'excellents musiciens, donc on vient d'entendre comme on l'a entendu. Donc à la fin de cet extrait, c'est vrai que c'est de très bons musiciens hein, encore que vous avez rencontrés. Ils étaient combien là ? Il y a du monde.
Alors en fait, tout tourne autour d'un seul musicien qui est le maître, qui chante et qui joue d'un instrument, l'instrument principal de cette musique qui s'appelle le gambri et qui est un luth à manches longs et à trois cornes. Et donc cette musique s'appelle la musique des Gnawa. Et pour répondre à ta question, on était peut-être une petite dizaine. Donc les autres répondent au chant de ce maître-là et font des percussions. Et donc les Gnawis se considèrent comme une des confréries soufis de l'islam, c'est-à-dire c'est la mystique de l'islam, c'est chercher des moyens cachés pour entrer directement en contact avec le divin. Et c'est une musique qui a une aura assez importante dans la culture marocaine, qui a une histoire assez particulière aussi, puisqu'elle émane des anciens esclaves noirs qui étaient au Maroc. Parce qu'il y a eu un commerce important d'esclavage au 16e, 15e, 16e siècle, je crois. Et les descendants de ces esclaves noirs ont créé cette musique-là après avoir été convertis à l'islam. Et elle mélange les deux traditions spirituelles animistes d'Afrique noire et musulmane du Maghreb. Donc.
Je reviens sur l'excellent musicien avant de parler de la musique. En fait, là, vous avez entendu donc la musique des Gnawa, mais vous avez dû entendre un saxophone. Et donc, traditionnellement, il n'y a vraiment pas de saxophone. Et au Maroc, de manière générale, il n'y a pas beaucoup de cuivres. On s'en sert vraiment peu dans la musique. Donc, en fait, vous avez entendu, c'est un excellent musicien, presque. Et en fait, il parlait de Lucas, donc, qui jouait au saxo sur le morceau. Alors, donc, pour parler de la musique des Gnawa, donc Lucas a parlé du maître donc qui dirigeait la musique, donc qui était au gambri et qui chantait également. Donc tout autour, il y avait d'autres musiciens qui répondaient au chant, donc qui chantaient aussi. Et il y avait une troisième chose, les percussions. Alors les percussions traditionnelles, ce sont des carcabas. Ce sont des percussions en métal, donc voilà qu'on va taper pour faire la percussion. Et là, ils avaient aussi des petites boîtes remplies de morceaux de métal et ils arrivaient à taper la percussion aussi dessus. La musique des Gnawa, on vous disait qu'elle mélangeait la tradition de l'islam et les traditions animistes d'Afrique noire. Et en fait, c'est une musique qui a pour objectif de guérir. Les Gnawa pensent que dans chaque personne qui a un esprit, donc qu'on est accompagné d'un esprit, donc comme dans les traditions animistes, et que cet esprit, à un moment donné de votre vie, il peut se retourner contre vous, et c'est là que vous tombez malade. Donc à chaque fois qu'on est malade, en fait, c'est que l'esprit qui est en nous s'est retourné contre nous. Et pour le guérir, on va faire une cérémonie qui s'appelle la lila, et donc qui est composée de 7 mélodies différentes. Et à chaque fois qu'on va entonner une mélodie, on l'entonne dans le but qu'elle touche l'esprit. Et quand la personne qui est malade rentre en transe, donc elle va commencer à faire des mouvements rapides, c'est que la musique correspond à l'esprit. Et à partir de ce moment-là, on peut lui parler. Donc il y a une prêtresse qui vient, qui parle avec l'esprit pour le convaincre de redevenir bon envers la personne qui habite l'esprit. Alors c'est une cérémonie qu'on n'a pas vue parce qu'il y a un seul lieu de culte des Gnawa au Maroc, c'est à Essaouira.
Et la cérémonie, en fait, c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a plusieurs phases. C'est très long, ça dure toute la nuit. La lila, en fait, ça veut dire la nuit. Il faut faire un sacrifice. Il y a tout un décorum. Il y a des encens et des habits. Effectivement, il faut plein de musiciens qui sont des vrais Gnawa qui pratiquent cette. C'est un mode de vie, en fait. Donc, quand t'es Gnawa, tu te dédies plus ou moins à ça. Et donc il faut réunir des vrais maîtres Gnawi. Et ensuite, voilà, il faut aussi une voyante qui va pouvoir intercéder avec l'esprit. Donc c'est quelque chose d'assez particulier qu'on ne voit pas tous les jours non plus. Et donc là, on avait rencontré Fahd, c'était le musicien, le chanteur, gambriste, sur le marché de Taroudant avec notre ami Younes, qui nous avait proposé d'organiser une petite soirée pour nous. Et donc on avait été invités à les rejoindre dans l'atelier d'un autre maître Gnawa qui fabriquait des instruments, le gambri. Et c'est dans l'arrière de son atelier qu'on a participé à cette petite rencontre.
La musique Gnawa, elle est très très populaire. Elle est aussi séparée de cet aspect plus rituel. Donc on trouve énormément de gens qui jouent du guembri. Il y a notamment le festival d'Essaouira qui est super connu au Maroc, très très populaire dans toutes les classes de la société. Notamment, il y a des grands artistes, des grands musiciens de jazz qui sont venus jouer. Lucas, est-ce que tu peux nous rappeler quelques noms?
Oui, Archie Shepp, Marcus Miller, Tigran Amassian, des grands noms qui passent effectivement. Parce que c'est une musique qui se métisse très bien avec d'autres courants, comme le jazz, comme le rock, la funk, même le rap. Et donc c'est vrai que c'est une musique qui est très populaire parmi les jeunes générations. Et la plupart des jeunes connaissent les chants gnaoui et s'amusent à les métisser. Donc c'est une évolution moderne d'une forme artistique au Maroc, tandis que le Maroc est un pays où la société est très traditionnelle et en général les formes artistiques sont assez figées. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant.
Pour passer au morceau suivant justement, vous allez écouter de la Gnawa Fusion. Donc là on était... je vous laisse d'abord écouter et puis on vous en parlera après.
On écoute.
Stone a little bundle away.
On est toujours au Café des Alpes, donc à Nyons, chez Ali, avec Lucas et Gitanjali, pour une émission donc, sur Mare Nostrum, autour aujourd'hui du Maroc, et on vient d'écouter de la Gnawa Fusion.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire une évolution un peu moderne d'une musique traditionnelle Gnawi,
Gnawa. 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 Je crois que c'est Gnawi au pluriel. Et donc là, c'était le gambriste Hicham Al-Essaoui, qu'on a rencontré aussi par le biais de Younes, et qui lui habitait à Agadir. Et c'était un bœuf qu'on a fait dans un lieu particulier à Agadir qui s'appelle la Djazaouia, qui un jeu de mots en fait. Zaouia, c'est les lieux dédiés aux confréries soufis. Chez les Gnawa, il n'y en a qu'une seule qui est à Essaouia, c'est la seule. Et donc là, c'est en fait un lieu assez fermé, mais c'est le seul lieu qui est dédié à la musique actuelle dans cette grande ville qui est Agadir. Donc en fait, c'est la maison d'un maître Gnawa qui a décidé de l'ouvrir pour tous les jeunes qui veulent. Parce qu'en général, c'est des jeunes qui pratiquent ces musiques-là.
Alors comment s'est perçue cette évolution? Parce que vous nous disiez tout à l'heure que la musique Gnawa avait aussi une musique traditionnelle, mais assez lourde de sens en termes cérémoniels, musique presque thérapeutique, vous nous l'avez dit. Comment est-ce que c'est perçu ça par les maîtres Gnawa, qui est une évolution un peu plus jazz comme ça par les jeunes aujourd'hui?
Alors de ce que nous on en a vu, c'est quelque chose qui est très, très accepté, qui est même encouragé. Donc de pouvoir ouvrir cette musique à d'autres influences et pouvoir aussi la diffuser comme ça à l'étranger. C'est vrai que je sais pas ce que toi t'en as ressenti, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très accepté.
Bah, c'est très accepté, et d'autant plus que c'est fait, le festival des Sawira notamment, c'est eux qui invitent des musiciens étrangers, donc c'est une volonté aussi. Alors, aussi pour pas que cette musique meure, je suppose, parce que effectivement, le fait qu'elle évolue tout le temps, elle est toujours jouée, et puis en plus elle commence à être jouée à l'international. Et je me souviens aussi avoir vu un petit reportage où on interviewait un maître gambriste aussi sur cette question, et qui se montrait effectivement ouvert et avec le même point de vue que moi, c'est que la musique, elle doit être vivante. Et c'est ce qu'elle fait, donc c'est très bien.
Vivante et mélangée pour le coup. Du coup, on entend bien aussi le mélange de culture, là, en l'occurrence, voire avec des instruments qui sont pas forcément traditionnels, avec et puis des grands artistes aussi, vous me disiez, qui viennent d'un peu partout dans ce lieu-là. Donc, vous avez rencontré des grands artistes là-bas, d'excellents musiciens.
Oui, alors le monde des Gnawa, c'est un monde assez petit, et donc on a rencontré Mehdi Nassouli, qui est aussi originaire de Taroudant et un grand ami de Younes et de Hicham, et qui est sûrement le musicien gnawi le plus célèbre en ce moment, puisqu'il s'exporte bien à l'étranger, et notamment en France. C'est un partenaire récurrent du français Titi Robin, qui s'est spécialisé dans les musiques méditerranéennes aussi. Et donc,
il joue ensemble, je crois. Avec qui t'as joué d'ailleurs?
J'ai joué avec Mehdi Nassouli, oui.
Avec Mehdi Nassouli.
Pas avec Titi Robin.
Dans la Djazaouia. Alors, juste pour revenir sur ce lieu, tout le monde s'y retrouve, et donc même des artistes qui tournent maintenant à l'international, parce que justement, il n'y a pas de lieu au Maroc pour les musiques actuelles. On vous a dit que c'est un Gnawa qui avait ouvert sa maison, donc ce n'est pas du tout quelque chose d'institutionnel. Donc c'est un particulier qui, par sa volonté, fait vivre, en tout cas, donne un lieu à ces personnes-là. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'au Maroc, y a vraiment peu de place pour la culture, en tout cas pour la culture institutionnelle. Ou pour la culture traditionnelle, qui là forcément est plus valorisée. Mais en tout cas, les évolutions actuelles, c'est beaucoup plus rare. Alors un petit fait, au moment où on était au Maroc, il y avait des manifestations pour la réouverture d'un cinéma. Au Maroc, il y a 13 salles de cinéma qui sont concentrées dans, je crois, 8 cinémas. Donc ouais, dans le pays, il y a 8 cinémas, pour vous rendre compte un peu du peu de place qu'il y a pour la culture dans ce pays. Et donc, les initiatives individuelles sont d'autant plus importantes qu'elles sont rares.
On voyage aujourd'hui, toujours à Chali, donc au Café des Alpes. Est-ce qu'on enchaîne sur un deuxième morceau? Sur un deuxième, un énième.
Il n'y a pas des questions avant?
Vous avez participé des fois, vous-même, avec les groupes?
Oui, ben moi je joue du saxophone et sur les deux derniers morceaux qu'on vient d'entendre, j'ai été invité à jouer. Oui. Ça c'est intéressant, c'est aussi une composante essentielle de la culture marocaine, l'accueil, qui est vraiment quelque chose de très très fort, de très sincère, quelque chose de très agréable, qu'on trouve qu'on a un peu oublié en France par exemple. Et donc à chaque fois qu'on est allé vers des gens pour qu'ils nous parlent de leur forme artistique, de leur vie, de leur travail, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Et ils nous ont montré sans concession tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils pensaient. Tout, voilà.
Alors, on a une autre question.
Ouais, j'avais une question. J'aurais aimé savoir, vu que vous avez passé, je crois, 1 mois et 10 jours au Maroc, vous avez dû rencontrer quand même beaucoup de jeunes, un peu moins de 25 ans, vers 30 ans. Et je voulais savoir, ça n'a pas du tout de rapport avec la musique, mais... quelles étaient leurs attentes, en fait, par exemple, de la vie, leurs aspirations, est-ce qu'ils vous ont parlé un peu de leurs problèmes, ce qui leur plaît. Peut-être que c'était dans un environnement très musical, donc ils vous parlaient surtout de musique, mais est-ce qu'ils vous parlaient un peu de ce qu'ils attendaient de la vie
Là, on va entrer dans des sujets qui sont un peu plus délicats. Déjà, au Maroc, c'est là où on a le plus côtoyé des personnes de notre âge, des jeunes. Ouais. Voilà, il faut savoir que la situation au Maroc est un peu compliquée. Moi je pense qu'on le voit pas trop, on le montre pas trop en France, parce que le Maroc c'est une des destinations favorites des touristes français, et donc on voit la culture différente, orientale, l'accueil, l'artisanat, tout ça, des belles choses. Mais en dehors de ça, la situation au Maroc est un peu difficile. Il y a un taux de pauvreté qui est énorme. Il faut le dire, le régime est assez liberticide, hein. c'est une monarchie, et jusqu'à peu c'était une monarchie absolue. Depuis les événements des printemps arabes, le roi a un peu lâché du lest et a doté le pays d'une constitution, et donc il y a un gouvernement qui s'est créé, mais dans les faits c'est le roi qui détient tous les rênes du pouvoir. L'éducation aussi, c'est un sujet délicat au Maroc. Il y a que très peu d'argent qui est mis dans l'éducation et dans la culture. Le taux d'analphabétisation est énorme. Que dire de plus ? Le carcan religieux aussi, il faut en parler. L'islam est une religion d'État. Dans la loi, il est dit que les Marocains sont libres de pratiquer la religion qu'ils choisissent de pratiquer. Dans les faits, il y a une autre loi qui dit que... toute action qui pourra ébranler la foi d'un Marocain musulman sera réprimée par des sanctions. Et donc cette loi est très librement interprétée et déclarer publiquement son athéisme est par exemple considéré comme mettant en danger la foi des autres, puisqu'elle peut inciter à l'athéisme. Et donc déclarer qu'on est athée, ça peut être quelque chose de très dangereux pour les personnes.
Et ce genre de problème, c'est... de votre œil, que vraiment vous l'avez observé, ou vraiment ils vous en parlent comme une contrainte, vraiment un truc qui leur pèse, quoi.
Je pense qu'on l'a plus observé, ouais, que ce qu'on nous l'a dit. D'accord. Je pense que toutes ces composantes-là de la société marocaine font que les gens et les jeunes ont peu d'esprit critique et veulent pas se mettre en face de ces questions-là, puisque ça peut être dangereux pour eux.
D'accord.
Réellement dangereux. Et donc, ils vivent comme ils vivent, en essayant de s'en sortir, et du coup, sans essayer de changer beaucoup les choses. Il y a eu des velléités de changement au moment des révolutions du printemps arabe, mais elles ont été vite étouffées par l'action du gouvernement qui a doté le pays d'une constitution. Ça a calmé beaucoup d'ardeur. Et aussi, quand ils ont vu ce qui se passait à l'étranger, ils se sont dit, on a échappé au drame le plus total, on va se calmer un petit peu maintenant.
D'accord, merci.
Et donc, vous en avez rencontré des jeunes qui justement, liés aux événements du printemps arabe, vous ont affirmé avoir eu envie aussi de faire un peu bouger les choses là-bas au Maroc
de faire bouger les choses, pas trop. On a entendu que peu de personnes, peut-être des Marocains. Je crois qu'on en a rencontré que deux qui avaient un discours critique un peu sur l'avenir de leur pays, sur la situation actuelle et notamment sur le régime en place. Mais que deux, et c'est vrai qu'ils nous ont dit d'être prudents quand on rapporterait leurs paroles, parce que ça pouvait représenter un véritable danger pour eux. Mmh. Que ce soit du côté de la loi ou de la société qui est très figée et qui est très intolérante par rapport à ces questions-là.
Mmh. C'est toujours des questions délicates, surtout quand on vient d'ailleurs aussi, d'arriver avec, disons, notre, notre vision à nous, quoi, notre culture, notre, la façon dont on s'est nous-mêmes socialisés et les visions qu'on a de la liberté qui sont parfois un peu différentes d'une culture à l'autre. Et j'aurais aimé savoir si vous, en tant qu'étranger là-bas aussi, la façon dont vous-même vous avez été perçu, si vous avez eu l'occasion d'évoquer ces questions-là et la manière dont c'était perçu, est-ce que finalement c'était vu comme une vision occidentale sur leur culture ou est-ce que, parce que vous dites qu'il y a peu d'esprit critique, finalement peut-être qu'il y a un esprit critique aussi qui est moins affirmé parce que plus contraint, et puis vous avez une position particulière aussi en tant qu'étranger, donc peut-être qu'ils vous disent pas la même chose à vous que ce qu'ils disent à d'autres Marocains, et que je sais pas comment est-ce que vous, en tout cas vous avez ressenti votre position de français.
On y allait très prudemment, on voulait pas heurter les sensibilités, c'était pas notre but non plus de... Et puis il faut toujours être humble, il ne faut pas paraître condescendant. Quand tu arrives avec ta vision à toi d'occidental et ils n'ont pas les mêmes acquis que toi, ils n'ont pas la même vision du monde que toi. Et tu ne peux pas arriver avec un regard qui juge tout de suite, c'est pas juste. Et on y allait très prudemment, donc on a plutôt laissé les gens nous en parler. Et quand ils nous en parlaient, on pouvait nous alimenter le débat, mais sinon on ne s'est pas trop aventuré sur ce terrain-là avec tout le monde, quoi.
Après, ça me fait penser à peut-être deux moments où on a parlé de ça avec des personnes. Alors, on a eu deux cas de figure. Alors, avec nos amis Hicham et Sarah. Hicham, c'était le gambriste que vous avez entendu faire de la Gnawa Fusion, qui vit avec donc Sarah, qui est percussionniste. Et elle nous a expliqué tout son parcours de vie, qui a été très compliqué pour elle, parce qu'en tant que femme, être musicienne, c'est pas accepté. Et donc, elle nous a raconté voilà, la chance qu'elle a eue de trouver un mari musicien qui acceptait qu'elle s'adonne à des passions artistiques. Et donc ça, ça a été la première chose qu'on a vue. Et puis, petit à petit, en les côtoyant, alors moi, en tant que femme française libre et voilà, qui ne supporte pas forcément qu'on lui dise qu'une femme et un homme ne soient pas sur le même point d'égalité, je me suis rendu compte vite, je trouvais qu'elle n'avait pas les mêmes droits que son mari. Ce qui m'a d'abord révoltée, puis j'en ai parlé avec un autre ami marocain qui avait vécu en France plusieurs années et qui m'a dit « Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux juger? Rends-toi compte que cette femme, elle a 50 fois plus de droits que la plupart des femmes marocaines et qu'elle a déjà énormément de chance. » Et effectivement, mon premier regard, il était très critique et on m'a fait « Mais rends-toi compte, par rapport à ici, c'est déjà très bien. » Et il y a eu aussi le cas de figure où il y a une femme marocaine qui a pu s'exprimer face à nous et nous dire combien ça lui faisait du bien qu'on soit là et qu'elle pouvait parler de tous ces sujets-là dont elle ne pouvait pas parler avec ses amis marocains ou avec les Marocains en général, de peur justement de ce que les autres allaient penser d'elle, des sanctions qui auraient pu être prises à son égard. Donc on a vu nous aussi quel regard on portait par rapport à ce qu'on était et de voir aussi qu'il y a certaines personnes qui pouvaient aussi s'exprimer parce qu'on n'allait pas les juger. Donc en fait, c'était assez intéressant de pouvoir parler de ça quand on a pu en parler.
Et si on en revient un peu à la musique d'ailleurs, vous avez rencontré des musiciennes aussi parmi les groupes que vous avez rencontrés ou est-ce que c'est une activité presque exclusivement masculine de la musique?
Alors, déjà, le statut de musicien est très mal considéré. Être un artiste, c'est pas quelque chose de valorisant. Au Maroc, c'est la musique, c'est la frivolité, donc c'est pas sérieux, c'est pas ce qui rapporte de l'argent, donc c'est assez mal considéré. Et des artistes femmes, il en existe que très peu, parce qu'une femme, c'est pas sa place dans la société traditionnelle qui est très hiérarchisée au Maroc. On en a rencontré la femme d'Hicham, Sarah. Et on a rencontré aussi un groupe de musique féminine, en fait, qui faisait revivre un style de chant exclusivement féminin. Et donc c'était une femme qui avait monté cette association-là et qui s'était attelée à recenser tous les textes qui étaient en train de mourir, puisque c'était une tradition orale. Et ensuite, elle a mis sur pied un groupe de femmes, et donc elle s'occupe de les faire produire et de chanter ces textes-là. Et elle nous disait qu'aussi, ça avait été un combat monstrueux pour faire reconnaître l'intérêt d'un tel travail.
Après, je voudrais mettre un petit bémol parce que, alors, il y a un jugement de la société qui est parfois dur envers les personnes qui seraient pas en accord avec le gouvernement ou qui auraient des idées différentes sur la religion. Après, il y a aussi, ça s'ouvre énormément, le Maroc, dans les grandes villes, notamment dans la première ville où on a été à Marrakech. On est dans une famille où voilà, la sœur et le frère étaient sur un même pied d'égalité, où elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait. Et il y a quand même, voilà, on a quand même rencontré des jeunes filles musiciennes. Rappelle-toi, à Taroudan, on avait vu une amie de Younes. Qui est... Donc il y a aussi des familles qui sont ouvertes et voilà, il ne faut pas dire que toutes les familles sont ultra traditionnelles et ultra conservatistes. Il y a aussi un mouvement d'ouverture forcément qui vient avec la mondialisation, je suppose.
Je pense qu'il faut rappeler que ce que nous on dit là, ça reste superficiel puisque c'est une observation qui a été faite pendant un mois, c'est pas général. Et puis de toute manière, même si on vivait là-bas, il y a toujours des cas de figure différents où on se trouve. Donc nous on donne notre regard maintenant, mais c'est pas non plus une vérité absolue, il faut toujours exprimer un point de vue critique par rapport à ça.
Alors on va peut-être passer l'avant-dernier morceau, oui.
On écoute.
Alors c'est parti.
Ensemble, ici, Radio Live, la radio des initiatives.
Donc nous écoutions la musique des Aïssawa, qui sont une confrérie soufie de la religion musulmane. Et donc voilà, c'était une musique rituelle. Et nous l'avons enregistrée dans leur zaouïa à Taroudante, alors que se déroulait une cérémonie un peu particulière puisqu'ils célébraient l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed.
Vous avez assisté à cette cérémonie?
Oui. Alors c'est encore grâce à notre ami Younes,
le fameux Younes,
qui nous a introduit dans cette zaouïa. Dans tous les cas, on aurait été accueillis à bras grands ouverts encore une fois. Puisque dès qu'ils pouvaient attraper un touriste pour le faire venir, ils essayaient, mais en général, les touristes étaient assez décontenancés et filaient rapidement.
Donc c'est la raison, est-ce qu'ils filaient rapidement?
Bah, je pense qu'ils devaient se sentir mal à l'aise parce que c'était une cérémonie religieuse, qu'il y avait plein de monde, que tout le monde était en costume, que ça dansait, il y avait de la musique, je sais pas.
Oui,
ça fait peur aux gens d'aller voir des choses qu'ils connaissent pas forcément.
C'était très expressif, il y avait beaucoup de gens qui dansaient de manière très particulière. En fait, on avait pris une vidéo à ce moment-là qu'on a fait passer à chaque fois qu'on passait dans une école. Et presque à chaque fois, les enfants, ils étaient morts de rire parce que, en fait, pendant cette danse, il y a des personnes qui sautent en tournant sur eux-mêmes de manière assez particulière. Vraiment, ils rebondissent. Alors, quand on voit ça, forcément, voilà, c'est un peu particulier. Donc, je pense que ces personnes-là n'étaient pas forcément à l'aise.
Quand on voit ça pour des écoles, on a peu parlé de ces écoles, mais là tu parles des écoles françaises, j'imagine. La vidéo était diffusée.
Pas que, on l'a montré en fait sur la route, donc à partir de la Croatie, on a rencontré des écoles autres que marocaines, donc Croatie, Albanie et Turquie.
Et quel lien est-ce qu'il y avait directement quoi avec ces écoles entre ces écoles au Maroc, les écoles, alors je crois qu'il y a l'école de Nyons.
Il y a le collège de Nyons.
Le collège de Nyons.
Justement, il y avait une école, deux classes.
Une classe qui était jumelée avec le Maroc et deux classes avec l'Albanie, du collège de René Barjavel. Et du coup, il y avait l'école de Vinsobres. Donc, il y avait trois classes à l'école de Vinsobres qui étaient jumelées avec la Turquie et la Croatie. Donc, ils ont échangé, en fait, sur l'année des lettres, des chansons. Après, on est passé dans chaque classe pour raconter notre voyage. Et donc, pour leur montrer en images, en vidéo et les objets, toutes nos découvertes.
Et comment est-ce qu'ils l'ont reçu, tout ça ? Quel retour est-ce que vous avez des élèves que vous avez rencontrés ?
Je crois qu'en général, ils étaient vraiment très contents de voir tout ça, de savoir qu'il y avait des gens qui pouvaient voyager et qui pouvaient aller aussi loin et rencontrer autant de personnes et récolter autant de choses différentes.
Qu'on pouvait vivre aussi simplement aussi. Ça les a beaucoup fait rire quand on leur envoyait les photos de nous en train de se laver avec une bassine et un gant ou à dormir dans notre van ou... de voir qu'on pouvait vivre avec peu de choses et voilà, qu'on pouvait se débrouiller avec peu de choses.
Donc on est au Café des Alpes, toujours chez Ali, Radio Livre ensemble ici avec Lucas et Gitanjali. Et puis il y a du monde autour de nous aussi, donc peut-être des personnes qu'on a entendues brièvement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant de clôturer cette émission sur l'association, ou profiter que Lucas et Gitanjali soient là pour leur demander. Enfin, avant de terminer ce premier épisode, puisqu'on vous retrouvera donc pour d'autres émissions sur de nouveaux pays, pour continuer un petit peu votre périple, et pour que vous continuiez de nous faire voyager nous aussi à travers toutes ces musiques et cette expérience.
J'ai une question. Quels sont les autres projets de votre association ? Parce que là, le voyage est fini, là, j'ai compris. Quels sont les projets futurs ?
Alors, le voyage en lui-même est terminé, notre récolte est terminée. Après, on l'a partagé sur notre site internet, on l'a partagé avec les écoles et on veut continuer de le faire. Et donc, on va monter une exposition qui va présenter toutes nos découvertes musicales notamment, qui va circuler dans différents lieux. On espère sur le territoire aussi nyonçais, ça va circuler aussi en Bretagne et dans l'Hérault. Donc un premier point. Ensuite, on aimerait bien continuer à faire vivre tout le réseau qu'on a créé, parce qu'on a des partenaires en France, mais dans tous les pays rencontrés, des écoles, mais des associations et des musiciens. Donc ça nous tiendrait vraiment à cœur de faire venir des musiciens en France pour qu'ils partagent leur musique, mais aussi leur expérience de vie, qu'ils puissent parler de leur pays. On voudrait pérenniser les échanges scolaires. Dans l'espoir qu'on puisse un jour faire des échanges effectifs, donc envoyer les Français au Maroc, les Marocains en France, les Croates en France, etc. C'est les projets qu'on a pour le moment à développer cette année. Et donc, on recherche aussi des bénévoles pour nous aider dans toutes ces tâches. Donc, vous êtes tous les bienvenus.
L'appel est lancé, en tout cas, et donc de beaux projets en perspective encore pour Marie Nostrum, qu'on retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode. Donc autour de cette fois, quel pays ? Où est-ce qu'on ira la prochaine fois ?
On ira dans les Balkans, donc un peu plus loin et plus au frais. Croatie et Albanie seront au programme.
Vous êtes tous invités à venir voyager en Croatie, en Albanie, pour la prochaine émission avec Marie Nostrum. Merci beaucoup à Ali d'abord pour nous avoir... Merci Ali, on te dit.
Qu'est-ce que tu dis ? Moi, pas compris.
Voilà, on l'a entendu au moins. Donc, c'était Ali. Et puis, merci à Aymeric qui est derrière la technique. Et puis, à vous, Lucas et Gitanjali. Et on n'oublie pas le chèque, Ali.
Alors, à une prochaine fois.
Et peut-être qu'on peut introduire le morceau qui va clôturer cette émission. Donc c'est une chanson qu'on a enregistrée à l'école partenaire à Agadir et qui a été interprétée par le professeur de musique de l'école, qui s'appelait Hamid. Et c'est une chanson égyptienne. Donc lui, il est musicien oudiste, il joue de l'oud, et il dit que son répertoire, c'est le répertoire arabo-oriental. Un petit mot là-dessus, c'est intéressant de voir l'unité culturelle qu'il peut y avoir entre tous les pays du monde musulman, et surtout les pays du Maghreb, les pays arabes. C'est vrai que on change complètement de référentiel par rapport aux nôtres. Quand on est arrivé, on s'est rendu compte de ça. Nous, on a une vision très occidentalisée du monde, et eux, ils ont une vision qui est très centrée sur ce monde arabo-musulman. Par exemple, quand on regarde les informations, c'est des informations du monde arabo-musulman qui ne sont pas du tout celles qu'on peut voir en France. Donc, c'était intéressant de se placer différemment comme ça dans le monde. Et voici donc une chanson égyptienne de Hamid.
On écoute, merci.
Thank you.
Ensemble, ici, Radio Livre, la radio des initiatives.